Bonjour, aujourd'hui, nous offrons une section de textes attirés des médias suivants. La presse, Reflet et l'actualité. Au programme, à la rencontre des femmes qui gardent le fort. Entre les lignes des discours publics décryptés, la rhétorique de l'agisme compassionnel. Et quelle est la meilleure activité physique pour les aînés? Bonne écoute!
À la rencontre des femmes qui gardent le fort. Un texte de Iseult Picard, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. La journaliste Marie-Ève Bédard, Radio-Canada CBC, couvre, entre autres, les guerres à l'étranger depuis de nombreuses années. Elle s'est rendue à plusieurs reprises dans des pays en crise comme l'Afghanistan et l'Ukraine. Peu encline à s'épancher sur sa propre expérience, elle préfère donner la parole aux femmes qu'elle a côtoyées lors de ses affectations. Elle a interviewé ces femmes qui vivent au front, dans des zones de conflits majeurs. Elle nous explique ce qu'elles endurent dans ces conditions extrêmes. Comment font ces femmes pour survivre quand tout autour d'elles s'écroule, comme en Ukraine? Dans un pays en guerre, les hommes sont partis au front, laissant les femmes seules. Mais elles savent qu'elles doivent rester courageuses. En Ukraine, il y a aussi plusieurs femmes militaires au front. Sauf qu'en discutant avec elles, je me suis rendu compte que ces femmes avaient été seules au front domestique toute leur vie. La vie les a rompues au combat. Ces femmes sont hyper fortes, en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. J'ai rencontré à Boutcha, en banlieue de la capitale, Kiev, une famille de 3 générations de femmes qui vivent seules depuis toujours, même si des hommes sont passés dans leur vie. L'arrière-grand-mère a eu un mariage d'amour. C'était magnifique de l'entendre raconter la relation qu'elle a eue avec son époux. Sauf que le couple travaillait à Tchernobyl, la ville même où un réacteur nucléaire a explosé. Il est mort peu de temps après, la laissant seule pour s'occuper de leur fille. Il y a beaucoup de tels cas de femmes qui sont soit veuves, soit divorcées, en Ukraine et en ex-Union soviétique. D'ailleurs, c'est toute la vie qui est difficile dans l'ex-URSS. Ils ont très, très peu de filet social. Les pensions sont minuscules par rapport à ce que nous avons. Dans cette famille, les femmes ont géré leur vie complètement seules. Elles exercent des métiers difficiles, souvent traditionnellement masculins et peu payants. Si tu regardes les édifices dans lesquels elles vivent, en mars 2022, elles ont dû faire face à l'arrivée brutale de soldats de l'armée russe. Des centaines de civils ukrainiens ont péri dans leur banlieue. Dans un appartement sans électricité, qu'elles refusent de quitter, ces 3 générations de femmes sont encore là. Elles se sont tenues ensemble. Et puis, pendant que les hommes sont au combat ou sont tués, ce sont les femmes, dont plusieurs très âgées, qui ont dû subir les assauts des soldats russes pendant l'occupation de mars dernier. Elles ont été intimidées, menacées, violées, pendant qu'elles gardaient le fort. Comment peuvent-elles supporter une telle suite de chocs? La résilience. Elles vivent toutefois des moments de bonheur. Elles plaisantent entre elles. Elles sont généreuses. Elles vont se visiter. Mais j'ai aussi l'impression qu'elles se disent qu'elles ne font que ça, survivre. Elles se retrouvent toutes à l'extérieur pour faire la cuisine. À l'intérieur, il fait bien trop froid. Ou autour du thé, pour se donner un peu de courage. Se remonter le moral. On peut dire que oui, ce sont des vies qui servent uniquement à passer au travers. C'est à la chandelle que la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère préparent le goûter pour le jeune garçon de la famille ou qu'elles lui font faire ses devoirs pour qu'il réussisse à l'école. Comme bien des femmes ailleurs, les Ukrainiennes se tournent vers la jeune génération pour tenter de lui offrir un peu plus. C'est toujours ça, le réflexe dans les populations déplacées. Protégeons les enfants, protégeons leur avenir. Les gens qui sont soudainement confrontés au chaos, à court ou à long terme, sont obligés de décider pour leurs enfants. C'est pour eux qu'on reste, c'est pour eux qu'on part. Ils souhaitent bâtir mieux pour ceux qui les suivent. C'est ce que les immigrants acceptent de faire aussi quand ils quittent leur pays. Recommencer à zéro avec des diplômes souvent non reconnus. C'est pour les enfants qu'ils le font. Pour les enfants, mais aussi pour les orphelins. Autre cas déchirant. Des orphelins dont les enfants ouïghours, c'est une minorité musulmane persécutée par la Chine, sont envoyés en Turquie, seuls. Expliquez-nous ce qui pourrait les attendre. Très honnêtement, j'ai du mal à être optimiste pour ces enfants-là. Quand on voit les enfants ouïghours qui se sont retrouvés dans la lointaine Turquie, qui ont été arrachés à leur pays pour leur protection lorsque les parents disparaissaient ou qu'ils étaient emprisonnés ou assassinés. En fait, les Ouïghours forment une communauté très militante et soudée à l'extérieur de la Chine. Ces enfants-là ne sont pas complètement laissés à eux-mêmes. Une communauté va en prendre soin. Mais ces enfants n'ont connu que des conflits. J'ai du mal à imaginer qu'ils puissent grandir sans ressentiment, sans colère, sans haine. J'espère que c'est possible, vu ce qu'ils ont connu, mais j'ai du mal à l'imaginer. Vous venez de lire un extrait de cet article qui est paru dans l'édition du 1er mars 2023, consacré en grande partie à la Journée internationale des droits des femmes. C'était « À la rencontre des femmes qui gardent le fort », un texte de Marie-Ève Bédard, paru le 25 mars 2023 dans La Presse.
Entre les lignes des discours publics, décrypter la rhétorique de l'agisme compassionnel. Un texte de Martine Lagacé, PhD, paru en mars 2023 dans Reflet. L'année 2021 aura été marquante en ce qui a trait à la lutte à l'agisme. Le premier rapport mondial sur l'agisme publié par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, témoigne en effet d'une prise de conscience quasi planétaire quant à l'ampleur de cet enjeu et en appelle de fait à une campagne mondiale de lutte à l'agisme. En parallèle et de manière inopinée, la pandémie de COVID-19 aura aussi contribué à une prise de conscience devant la persistance de l'agisme, sa complexité et les nouvelles formes sous lesquelles il se manifeste. C'est ce qu'ont révélé les résultats de plusieurs analyses critiques des discours publics véhiculés lors de cette pandémie. Car le langage n'est pas neutre, il construit et reconstruit plutôt une réalité reflétant l'hégémonie de certaines normes et idéologies, particulièrement en période de crise. Notre équipe a analysé comment et sous quel angle les aînés ont été positionnés durant la pandémie au moyen du langage utilisé dans les discours des gouvernements, des journalistes, des chercheurs et des aînés eux-mêmes. L'analyse critique du contenu de 110 articles produits par ces différents groupes durant la première année de la pandémie révèle deux grandes tendances. Premièrement, les aînés sont dépeints de manière homogène. Précisément, ils sont circonscrits essentiellement, voire uniquement dans leur vulnérabilité et ancrés dans un profil de victime de la pandémie. Une telle surgénéralisation pose problème parce qu'elle renforce la croyance que le vieillissement est de facto et pour tous synonyme de fragilité et plus encore, dans un contexte de crise, d'incapacité à prendre part à l'effort de résilience collective. Il est intéressant de noter que notre analyse a révélé que même le discours de certains aînés, dont les articles ont été publiés dans la presse écrite, s'est imprégné d'une telle croyance, témoignant possiblement d'un processus d'intériorisation de l'âgisme. Deuxièmement, quasi aux antipodes de cette tendance, notre analyse suggère aussi l'émergence de discours publics anti-âgistes, répertoriés particulièrement dans le langage de journalistes, mais aussi de chercheurs et d'aînés. Cependant, ce sont surtout les stéréotypes et la discrimination âgiste ciblant les aînés en bonne santé, vivant de façon autonome dans leur maison collectivité, qui ont été critiqués. En revanche, les aînés résidant en établissement de soins de longue durée ont été quasiment laissés pour compte dans ces dénonciations publiques de l'âgisme. Ce résultat témoignerait, de l'avis de certains auteurs, dont Higgs et Gilliard, de l'expression d'une nouvelle forme d'âgisme, qualifiée d'âgisme du quatrième âge, un âgisme profondément ancré dans l'imaginaire social, nourri par l'anxiété de la vieillesse, particulièrement de la grande vieillesse et de la perte d'autonomie qu'elle peut occasionner. Plus encore, il est plausible de penser que cet âgisme du quatrième âge créerait une sorte de fracture symbolique entre les aînés dits autonomes et ceux en perte d'autonomie. En d'autres termes, une fracture âgiste intragénérationnelle. Pris dans leur ensemble, ces résultats traduisent toute la complexité de l'âgisme. Surtout, il en appelle à des actions pour le contrer, en remettant en cause non seulement les structures politiques et économiques qui lui pavent la voie, mais aussi, en amont, les représentations sociales et culturelles de la vieillesse, ou plutôt de toutes les vieillesses. C'était « Entre les lignes des discours publics, décrypter la rhétorique de l'âgisme compassionnel », un texte de Martine Lagacé, PhD, paru en mars 2023 dans Reflet.
Quelle est la meilleure activité physique pour les aînés? Un texte de Gwok Din Nguyen, paru le 28 mars 2023 dans L'Actualité. L'auteur est gériatre, épidémiologiste et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il est aussi l'un des cofondateurs et l'expert médical de l'entreprise Eugéria, qui s'est donné pour mission d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Demeurer actif physiquement est la meilleure façon de conserver son autonomie. C'est même un incontournable pour pouvoir couler ses vieux jours à la maison. J'ai rarement besoin de convaincre les personnes âgées et leurs proches de l'importance de la mémoire et, plus largement, des fonctions cognitives. Mais j'ai plus de difficultés à leur faire avaler la pilule de l'exercice physique. Pour une consultation, en raison de troubles de mobilité et de chute, j'en fais de 5 à 10 pour des troubles cognitifs. Pourtant, les deux types d'atteintes contribuent aux pertes d'autonomie qui forcent un aîné à quitter sa maison. Un déclin cognitif est une chose, un déclin physique en est une autre. Mais lorsque les deux se combinent, l'effet est décuplé. Soucions-nous autant de nos pieds que de notre tête? Les bienfaits de l'activité physique. Les bénéfices d'une pratique régulière d'activité physique débordent largement le système musculaire. Le cœur, les poumons et les os sont des organes dont la fonction se renforce à l'usage. L'exercice physique est une des meilleures manières d'éviter ou de retarder les maladies cardiovasculaires ou les fractures dues à l'ostéoporose et aux chutes. De façon peut-être étonnante, il a aussi été démontré que l'exercice physique a des effets positifs sur les fonctions cognitives. D'abord, à long terme, en réduisant le risque d'être atteint de troubles cognitifs tels que la démence, mais également à court terme, par l'amélioration directe des fonctions du cerveau lui-même, particulièrement en ce qui a trait à la planification et à l'organisation. L'activité physique a un effet positif sur l'humeur et lorsqu'il s'agit d'une activité physique collective, cet effet augmente. Combien de temps faut-il y consacrer? L'Organisation mondiale de la santé recommande aux personnes de plus de 65 ans de pratiquer chaque semaine la même quantité d'activité physique que les adultes plus jeunes, soit au moins 150 minutes d'activité d'intensité modérée, comme marcher d'un bon pas ou danser, ou 75 minutes d'activité d'intensité soutenue, comme monter une côte à pied ou faire du vélo à vive allure. Cela peut aussi être une combinaison des deux, par exemple 90 minutes de marche et 30 minutes de course. De plus, surtout pour les aînés, aux prises avec des troubles de mobilité et sujets aux chutes, on préconise d'ajouter au programme, deux ou trois fois par semaine, des activités qui mettent l'accent sur l'équilibre fonctionnel, tel que le tai chi. Simple, non? Disons que ces recommandations sont plus faciles à lire qu'à mettre en branle. Les quatre types d'activités physiques. Mieux on comprend les choses, plus on y trouve un sens et plus on est motivé à les faire. Il faut donc savoir que toutes les activités physiques ne sont pas équivalentes. Pour en tirer le bénéfice maximal, il est judicieux de répartir son énergie entre plusieurs formes d'exercice et non pas toute la concentrer sur de longues marches de plusieurs heures. On peut les classer en quatre types. L'endurance, la résistance ou force musculaire, l'équilibre et la flexibilité. Les activités d'endurance, aussi appelées aérobiques, font augmenter les fréquences cardiaques et respiratoires. La marche, la danse, la natation et le vélo en sont de bons exemples. Viennent ensuite les exercices de type résistance musculaire, qui font travailler les muscles eux-mêmes et les sollicitent à un niveau supérieur à ce qu'ils font en temps normal. Poids et haltères, appareils de musculation, transport d'objets lourds, comme l'épicerie, bandes élastiques et exercices qui emploient le corps comme résistance, comme des pompes ou push-ups en anglais, debout au mur. L'équilibre et la flexibilité sont deux composantes souvent oubliées, de la forme et de l'activité physique. Elles appellent des exercices qui visent à augmenter la stabilité et le contrôle du corps, ainsi que l'amplitude des mouvements. Faire du tai chi ou du yoga, se tenir sur un pied, effectuer des exercices d'étirement, marcher en tandem, comme sur une corde raide imaginaire, en regardant devant soi. On réduit souvent l'activité physique aux exercices d'endurance. Les quatre types d'exercices sont pourtant complémentaires et participent au maintien de la forme physique, donc de la capacité à vaquer à toutes nos activités quotidiennes malgré le vieillissement. Vous écoutez? Quelle est la meilleure activité physique pour les aînés? Un texte de Gok Din Nguyen, paru le 28 mars 2023 dans l'actualité. Renforcer ses réserves. Dans la fleur physique de l'âge, quand le corps a le potentiel de courir un marathon, l'inactivité physique n'a que très rarement un effet sur la vie quotidienne. Il y a une réserve physiologique, un coussin de sécurité. Mais pour de nombreuses personnes de plus de 70 ans, cette même inactivité physique empêchera le corps de maintenir une réserve physiologique suffisante pour les activités quotidiennes essentielles. C'est encore pire lorsqu'il leur faut traverser un stresseur important, comme une chute, une maladie grave ou une hospitalisation. Plus on est près du seuil d'inactivité, engendrant des conséquences néfastes, plus il est payant de s'en éloigner. C'est la meilleure façon de préserver sa capacité à se déplacer ou à faire ses courses, afin de conserver son autonomie. Des obstacles à la pratique de l'activité physique. Pourquoi ne pratique-t-on pas plus d'activité physique, particulièrement en vieillissant? Je perçois chez mes patients une certaine inertie devant le changement, et cette réaction n'est pas l'apanage des personnes âgées. Adopter de nouveaux comportements exige d'instaurer des routines qui ne viennent pas naturellement. Notons ensuite que les bénéfices importants de l'activité physique n'ont été démontrés dans la littérature scientifique qu'à partir des années 1960-1970, alors que notre mode de vie se sédentarisait de plus en plus. Le lien entre exercice physique et santé est moins évident pour les gens très âgés que pour les générations qui ont suivi. Après tout, la populaire entraîneuse Josée Lavigueur n'a que 57 ans. L'inactivité chez les aînés s'explique aussi par la douleur et la crainte de blessures et de chutes. Un cercle vicieux peut s'installer. La douleur entraîne l'inactivité qui, elle-même, augmente la douleur. Il en va de même pour la peur de tomber, car l'inactivité mène au déconditionnement qui augmente le risque de chute et encourage l'inactivité. On sait pourtant que se remettre à bouger peut entretenir un cercle vertueux et atténuer la douleur et la peur de tomber. Finalement, des aînés se demandent si certaines des affections dont ils souffrent peuvent rendre dangereuse la pratique d'activité physique. Sachez qu'il existe très peu de contre-indications absolues à certaines formes d'activité physique. La clé est de personnaliser l'exercice selon nos limitations et surtout nos besoins, nos capacités et nos envies. Des outils pour faire le choix de l'activité physique. J'observe une grande diversité dans la forme physique des personnes âgées. Impossible donc de proposer à toutes les mêmes activités. Le plus important est de commencer et, progressivement, de se pousser un peu selon ses capacités. Les anglophones et les pharmaciens en gériatrie ont une jolie formule pour cela. Start low, go slow, but go. Il est essentiel de choisir des activités qui nous sont agréables, car ce sera la meilleure façon d'en assurer la poursuite. Optez également pour des types d'activités variées et combinées. Endurance, résistance, équilibre et souplesse. Vous pouvez consulter un professionnel de la santé, en particulier un kinésiologue ou un physiothérapeute, pour trouver un programme qui vous convient. Il y a aussi d'excellentes ressources québécoises en ligne. La première, SAF, soutien aux aînés pour la forme et l'équilibre. https://SAFE-SE-SAFE.ca/ nios.com/fr, a été mise sur pied par des gériatres du Centre universitaire de santé McGill. La deuxième, le GEO pour bouger, https://move50plus.ca/GEO-POUR-BOUGER a été créé par des kinésiologues de Sercovie, la Direction régionale de santé publique de Montréal et le service de gériatrie du CHUM. L'une et l'autre proposent des programmes d'exercices adaptés et propres à différents niveaux de conditions physiques. Faites le choix de l'activité physique et passez de la théorie à la pratique. C'était « Quelle est la meilleure activité physique pour les aînés? » Un texte de Gok Din Nguyen, paru le 28 mars 2023 dans l'actualité.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.uzevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claude Rion et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault et Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.